pourtant, nous le serrons d'assez près. Pas assez pour qu'il ne puisse nous glisser entre les doigts avant une minute. Il est trop sûr de lui. Voyons, voyons, vous me faites poser. Il y a là-bas, à la porte de ce café, deux agents cyclistes. Si je décide de les requérir et d'aborder le personnage, je me demande comment il nous glissera entre les doigts. Le personnage ne paraît pas s'émouvoir beaucoup de cette éventualité. C'est lui-même qui les requiert. Nom d'un chien, proféra Ganimard. Il a de l'aplomb. L'individu, en effet, s'était avancé vers les deux agents au moment où ceux-ci se disposaient à enfourcher leur bicyclette. Il leur dit quelques mots, puis soudain sauta sur une troisième bicyclette qui était appuyée contre le mur du café et s'éloigna rapidement avec les deux agents. L'anglais s'esclaffa.
« Hein ? L'avais-je prévu ? Un, deux, trois, enlevez. Et par qui ? Par deux de vos collègues, monsieur Ganimard.
Ah, il se met bien, Arsène Lupin. Des agents cyclistes à sa solde. Quand je vous disais que notre personnage était beaucoup trop calme. »
Alors quoi ? S'écria Ganimard vexé. Et que fallait-il faire ? C'est trop commode de rire.
Allons, allons, ne vous fâchez pas. On se vengera. Pour le moment, il nous faut du renfort.
Folenfant m'attend au bout de l'avenue de Neuilly. Eh bien, prenez-le au passage et venez me rejoindre.
Ganimard s'éloigna, tandis que Sholmès suivait les traces des bicyclettes, d'autant plus visibles sur la poussière de la route que deux des machines étaient munies de pneumatiques striés. Et il s'aperçut bientôt que ces traces le conduisaient au bord de la Seine, et que les trois hommes avaient tourné du même côté que Bresson la veille au soir. Il parvint ainsi à la grille contre laquelle lui-même s'était caché avec Ganimard, et un peu plus loin, il constata un emmêlement des lignes striées qui lui prouva qu'on avait fait halte à cet endroit. Juste en face, il y avait une petite langue de terrain qui pointait dans la Seine, et à l'extrémité de laquelle une vieille barque était amarrée. C'est là que Bresson avait dû jeter son paquet, ou plutôt qu'il l'avait laissé tomber. Sholmès descendit le talus et vit que, la berge s'abaissant en pente très douce et l'eau du fleuve étant basse, il lui serait facile de retrouver le paquet, à moins que les trois hommes n'eussent pris les devants.
« Non, non, se dit-il, ils n'ont pas eu le temps. Un quart d'heure tout au plus. » Et cependant, pourquoi ont-ils passé par là ?
Un pêcheur était assis dans la barque. Sholmès lui demanda
« Vous n'avez pas aperçu trois hommes à bicyclette ?»
Le pêcheur fit signe que non. L'anglais insista
« Mais si, trois hommes, ils viennent de s'arrêter à deux pas de vous. »
Le pêcheur mit sa ligne sous son bras, sortit de sa poche un carnet, écrivit sur une des pages, la déchira et la tendit à Sholmès. Un grand frisson secoua l'anglais. D'un coup d'œil, il avait vu, au milieu de la page qu'il tenait à la main, la série des lettres déchirées de l'album. CDEHNOPRZEO-237. Un lourd soleil pesait sur la rivière. L'homme avait repris sa besogne, abrité sous la vaste cloche d'un chapeau de paille, sa veste et son gilet pliés à côté de lui. Il le pêchait attentivement, tandis que le bouchon de sa ligne flottait au fil de l'eau. Il s'écoula bien une minute de solennel et terrible silence.
« Est-ce lui ?» pensait Sholmès avec une anxiété presque douloureuse. Et la vérité l'éclairant, « C'est lui ! C'est lui ! Lui seul est capable de rester ainsi sans un frémissement d'inquiétude, sans rien craindre de ce qui va se passer. Et quel autre saurait cette histoire de l'album ? Alice l'a prévenu par son messager. »
Tout à coup, l'anglais sentit que sa main, que sa propre main, avait saisi la crosse de son revolver et que ses yeux se fixaient sur le dos de l'individu, un peu au-dessous de la nuque. Un geste, et tout le drame se dénouait. La vie de l'étrange aventurier se terminait misérablement. Le pêcheur ne bougea pas. Sholmès serra nerveusement son arme avec l'envie farouche de tirer et d'en finir, et l'horreur en même temps d'un acte qui déplaisait à sa nature. La mort était certaine, ce serait fini. Ah, pensa-t-il, qu'il se lève, qu'il se défende, sinon, tant pis pour lui. Une seconde encore, et je tire. Mais un bruit de pas lui ayant fait tourner la tête, il avisa Ganimard qui s'en venait en compagnie des inspecteurs. Alors, changeant d'idée, il prit son élan. D'un bond, sauta dans la barque dont la mare se cassa sous la poussée trop forte. Tomba sur l'homme et l'étreignit à bras-le-corps. Ils roulèrent tous deux au fond du bateau. « Et après ?» s'écria Lupin tout en se débattant. « Qu'est-ce que cela prouve ?» Quand l'un de nous aura réduit l'autre à l'impuissance, il sera bien avancé. Vous ne saurez pas quoi faire de moi, ni moi de vous. On restera là comme deux imbéciles. Les deux rames glissèrent à l'eau. La barque s'en fut à la dérive. Des exclamations s'entrecroisaient le long de la berge. Et Lupin continuait. Que d'histoire, seigneur! Vous avez donc perdu la notion des choses? De pareilles bêtises à votre âge. Et un grand garçon comme vous, fi que c'est vilain. Il réussit à se dégager. Exaspéré, résolu à tout, Herlock Sholmès mit la main à sa poche. Il poussa un juron. Lupin lui avait pris son revolver. Alors il se jeta à genoux et tâcha de rattraper un des avirons afin de gagner le bord, tandis que Lupin s'acharnait après l'autre afin de gagner le large. Le rat, le rat pas, disait Lupin. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Si vous avez une rame, je vous empêche de vous en servir. Et vous de même. Mais voilà, dans la vie, on s'efforce d'agir sans la moindre raison, puisque c'est toujours le sort qui décide. Tenez, vous voyez le sort? Eh bien, il se décide pour son vieux Lupin. Victoire! Le courant me favorise. Le bateau, en effet, tendait à s'éloigner. Garde à vous! Cria Lupin. Quelqu'un, sur la rive, braquait un revolver. Il baissa la tête. Une détonation retentit. Un peu d'eau jaillit auprès d'eux. Lupin éclata de rire. Dieu me pardonne, c'est l'ami Ganimard. Mais c'est très mal ce que vous faites là, Ganimard. Vous n'avez le droit de tirer qu'en cas de légitime défense. Ce pauvre Arsène vous rend donc féroce au point d'oublier tous vos devoirs. Allons bon. Le voilà qui recommence. « Mais malheureux, c'est mon cher maître que vous allez frapper !» Il fit à Sholmès un rempart de son corps et, debout dans la barque, face à Ganimard, « Viens, maintenant je suis tranquille. Visez là, Ganimard, en plein cœur. Plus haut, à gauche. Oh, c'est raté, fichu maladroit. Encore un coup. Mais vous tremblez, Ganimard. Au commandement, n'est-ce pas? Et du sang-froid. Une, deux, trois, feu! Raté! Sacrebleu, le gouvernement vous donne des joujoux d'enfant comme pistolet? Il exhiba un long revolver massif et plat et sans viser tira. L'inspecteur porta la main à son chapeau. Une balle l'avait troué. Qu'en dites-vous, Ganimard? Ah, cela vient d'une bonne fabrique, hein? « Saluez, messieurs, c'est le revolver de mon noble ami, maître Herlock Sholmès !» Et d'un tour de bras, il lança l'arme au pied même de Ganimard. Sholmès ne pouvait s'empêcher de sourire et d'admirer. Quel débordement de vie! Quelle allégresse jeune et spontanée! Et comme il paraissait se divertir. On eût dit que la sensation du péril lui causait une joie physique. Et que l'existence n'avait pas d'autre but pour cet homme extraordinaire que la recherche de dangers qu'il s'amusait ensuite à conjurer. De chaque côté du fleuve, cependant, des gens se massaient, et Ganimard et ses hommes suivaient l'embarcation qui se balançait au large, très doucement entraînée par le courant.